Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui j'évoque un souvenir. C'était à Rouen dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. Un important incendie se déclarait dans l'usine Lubrizol classée Seveso, ravivant aussitôt le traumatisme douloureux d'AZF. Cette nuit-là, 5000 tonnes de produits chimiques partaient en fumée sous le regard incrédule et horrifié des riverains de l'usine. Un coup de projecteur cru sur la menace que représente cette industrie chimique. Mais qu'en est-il des sites où aucune catastrophe ne vient attirer l'attention? Comment construit-on son quotidien lorsqu'on habite à proximité d'industries polluantes? Quelles stratégies développe-t-on ou pas pour se protéger? Et d'ailleurs, pourquoi reste-t-on dans ces territoires dangereux? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles notre invité s'est penché au travers d'une série d'enquêtes inédites en France, en Espagne et au Portugal. Sociologue à l'INRAE dans l'équipe Géo, elle s'est intéressée aux conséquences sociales et écologiques de ces contaminations chroniques et nous les restitue dans un ouvrage original et passionnant intitulé « Habiter la pollution industrielle » paru aux éditions Presse des Mines en janvier 2023. Avec nous dans le studio de Divergence, Christelle Gramaglia. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science.
Merci.
J'attends encore qu'un sociologue se penche sur les effets d'une cohabitation prolongée avec elle. À mes côtés pour mener cette interview, la journaliste toxique Aline.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors pour commencer, Christelle Gramaglia, pardon, on va commencer par une question simple en apparence, mais pas simple pour vous. Donc votre ouvrage, il s'appelle « Habiter la pollution industrielle ». Comment vous définissez le « habiter » ?
Alors l'habiter, c'est une notion qui est largement discutée par les philosophes et les géographes. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Là, pour mes recherches et cet ouvrage, l'habiter, c'est ni l'ancrage et l'ouverture au monde, si on renvoie à Heidegger ou des auteurs comme ça, c'est plutôt simplement le fait d'habiter un territoire abîmé. Et la question que je me suis posée, c'est comment on habite des territoires industriels où il y a des pollutions et des risques.
Alors justement, je rebondis rapidement là-dessus. Lucille a dit que vous êtes sociologue. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à travailler autour de cette question de la pollution ?
Bon, c'est une longue histoire. Moi, j'ai fait ma thèse sur les pollutions de rivières hein, et sur la mobilisation des pêcheurs contre les pollutions de rivières. Et de fil en aiguille, hein, moi, j'ai été recrutée dans un laboratoire de recherche et j'ai continué à travailler sur les pollutions en progressivement m'intéressant aussi aux questions de santé.
Alors, votre étude, elle est réalisée à partir d'un travail de terrain. Donc, vous intercalez des extraits de votre journal de bord, d'ailleurs, dans ce livre. Vous avez été dans plusieurs lieux, Salindres, Fos-sur-Mer, Viviers, Carthagène, Estareja, j'ai presque réussi. Pourquoi ces villes? Comment vous les avez sélectionnées?
Alors, au départ, Viviers, c'est une des rencontres scientifiques. On part dans un projet, on travaille avec des collègues. Et puis progressivement, c'est des interpellations. Donc là, j'ai été interpellée par des riverains qui m'ont proposé de venir travailler sur leur terrain. Fos-sur-Mer, c'est la ville où j'ai grandi aussi. Enfin, où j'ai en partie passé une partie de mon enfance. Donc j'ai voulu y travailler après avoir fait le tour de plusieurs sites où je cherchais des terrains comparatifs. J'ai voulu aller voir à Port-Saint-Louis-du-Rhône et à Fos-sur-Mer comment ça se passait la vie au quotidien avec les pollutions.
Et de quel type de pollution, justement, on parle ?
Donc, c'est des pollutions industrielles avec des histoires différentes. Hein. Viviers en Aveyron, c'est 1855, le développement de la métallurgie du zinc. Salindres, c'est à peu près la même époque, c'est dans le Gard, et c'est la chimie, d'abord l'aluminium et la chimie du fluor. Fos-sur-Mer, c'est la sidérurgie et la pétrochimie. C'est ce type d'industrie. En Espagne, c'était les mines et l'industrie chimique aussi. Et au Portugal, bah, c'est la chimie du plastique. Voilà, c'est divers types d'industries qui sont à des moments différents de leur histoire.
Alors en pratique, vous avez mené vos enquêtes par entretien et par observation et vous montrez que les pratiques personnelles influencent particulièrement la perception que les habitants ont de leur environnement. Par exemple, un chasseur n'observera pas les mêmes choses qu'un marin, c'est ça que vous signifiez ?
Oui, ce qui m'a intéressée, c'est que souvent, on insiste sur le caractère invisible des pollutions. Et c'est vrai qu'à l'état moléculaire, elles sont invisibles. Sauf que quand on habite sur ces territoires où il y a des cumuls importants de pollution, on est dans des situations de catastrophes chroniques, eh bien, ces pollutions, elles ont quand même un caractère tangible. Les gens vont voir des fumées, ils vont les sentir, ils vont voir l'eau polluée, ils vont voir des mortalités de poissons, ils vont voir différents phénomènes comme ça, ils vont même ressentir des malaises et des inconforts. Et ces pollutions-là, donc, qui sont invisibles sur les regards sur le plan chimique, elles prennent une réalité, une tangibilité très importante. Et quand on est pêcheur, chasseur, quand on habite profondément ce territoire et qu'on le pratique, on a des points d'observation que d'autres acteurs n'ont pas. Et ce qui m'a intéressé, c'est de remettre un petit peu en lumière et à l'honneur ces perceptions. On se méfie tout le temps des perceptions, sauf que les gens qui vivent dans ce territoire-là, ils voient, ils ressentent des choses dont on devrait s'inspirer pour repenser la surveillance environnementale.
Alors, ces observations, elles concernent beaucoup le vivant non humain. C'est une ouverture importante dans votre livre, donc des poissons morts dans la rivière, des pigeons asphyxiés par les fumées, des veaux qui perdent leurs dents. Vous parlez d'appauvrissement d'un monde commun, c'est fort comme expression. Qu'est-ce que vous désignez par ça ?
Alors ben là, je me suis inspirée d'une anthropologue, Anat Singh, hein, qui a travaillé sur le productivisme et les effets de simplification des écosystèmes induits par le productivisme. Et moi, je me suis rendu compte que la pollution faisait la même chose. Elle va détruire en partie les écosystèmes ou faire que certaines espèces animales, végétales vont se raréfier. Et donc, on a bien finalement une réduction des possibilités d'interaction avec le monde vivant. Et c'est ça, moi, l'appauvrissement du monde commun, ce que je voulais désigner avec cette notion-là. C'est habiter dans ces territoires pollués, qui sont donc des écosystèmes simplifiés, eh bien, ne permettent plus le même type de jouissance qu'on pourrait avoir avec des environnements préservés.
Et oui, vous avez un interlocuteur qui dit qu'il entend le silence des oiseaux.
Oui. Ça fait écho aussi à des travaux sur les pesticides. Rachel Carson avait aussi écrit sur le silence.
Le silence qui fait écho, c'est beau. Alors, vous parlez aussi dans votre ouvrage d'altervie, et c'est un concept que vous reprenez à Michel Murphy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça recouvre, ce concept d'altervie ?
Oui, alors Michel Murphy, c'est une historienne des sciences et qui travaille aussi sur les contaminations au Canada. Moi, c'est une notion qui m'a beaucoup inspirée parce qu'elle permet à la fois de penser les transformations de manière positive et négative. Ce n'est pas enfermer ces territoires-là sous une chape chimique destructrice, c'est voir aussi ce qui se produit. Et dans ces territoires-là, donc vous avez des vies qui sont transformées parce qu'il y a des molécules, il y a des phénomènes qui vont produire des connexions nouvelles entre des corps, entre des personnes. Vous avez aussi des mobilisations sur ces territoires. Et vous avez d'autres façons d'envisager la vie et les interactions sociales. Et c'est ces transformations-là, pour certaines handicapantes et pour d'autres, au contraire, incapacitantes, ce concept est très utile pour penser ces deux dimensions.
Alors, dans votre deuxième chapitre, après avoir justement exposé la nature de ces pollutions et après avoir commencé à exposer toutes ces pratiques, vous vous intéressez à la question du pourquoi, une question qu'on se pose certainement tous. Pourquoi est-ce qu'ils restent, en fait, dans ces territoires abîmés, pollués et vous donnez un exemple qui est très parlant. Donc, vous parlez de Jacques, ce pêcheur qui vous emmène donc relever des poissons, des congres, qui vont être utilisés pour faire des relevés de toxicologie. Donc, ça veut dire que cette personne sait très bien que ces poissons sont porteurs de pollution et pourtant, il vous propose de amener pour la soupe des poissons. Qu'est-ce que ça veut dire de son attachement au territoire ?
C'est typiquement ce type de portrait, hein, de personne, hein, de rencontre que j'ai faite qui m'a amené à changer complètement de perspective. La plupart des travaux qui évoquent les problèmes de pollution, finalement, analysent la situation en racontant que c'est des gens qui sont piégés dans ces territoires-là, économiquement, qui ne peuvent pas partir. Ou alors, des gens qui sont dans le déni, qui sont finalement aliénés. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ces gens que j'ai rencontrés savaient tout à fait dans quel type de territoire ils vivaient, même s'ils subissent les pollutions. Et ils avaient des attachements très, très forts à ces territoires qui les obligeaient non seulement à rester pour continuer à l'habiter, mais aussi pour en prendre soin. Et Jacques, c'est une personnalité extraordinaire, hein, que j'ai rencontrée à Port-Saint-Louis-du-Rhône. et effectivement qui participent à des pêches scientifiques pour documenter les pollutions. Et il n'en demeure pas moins qu'ils refusent de se laisser désapproprier de son territoire et qu'ils continuent à consommer le poisson, le partager avec ses voisins, parce que ça, c'est un ferment de la sociabilité locale.
Alors justement, dans cette idée que les gens restent vivent dans ces territoires, vous dites aussi que ces terrains industriels, ils présentent des caractéristiques proches en termes démographiques et sociologiques, que la plupart sont peuplés de populations d'origine modeste, d'origine ouvrière. Est-ce qu'ils sont captifs? Vous dites que non, justement, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait qu'ils restent, les gens, malgré tout?
Donc c'est, l'argument de la captivité est souvent avancé. Moi, j'ai simplement nuancé en disant que c'était un peu plus complexe. C'est-à-dire que les populations que j'ai rencontrées, c'est pas forcément, c'est pas des intérimaires, c'est pas les plus pauvres de la classe ouvrière, c'est l'ouvrier.
Vous décrivez des belles maisons, un confort de vie quand même.
Des gens qui, dans les années 70 jusqu'aux années 80, ont accédé à la propriété et restent dans ces territoires parce que finalement, ils ont accès à des biens de meilleure qualité, et avec les mêmes revenus, ils n'auraient pas accès dans d'autres territoires à d'autres biens. Et en plus, eux-mêmes le disent, mais pourquoi je quitterais ma belle maison à Port-de-Bouc pour aller habiter à Marseille ou à Paris? Je serais sans doute pas aussi bien. Donc c'est des gens qui font des arbitrages aussi. Et en tout cas, les décrire comme piégés, c'est trop simplifier la situation.
Alors, vous comparez cette situation justement avec les États-Unis, par exemple, où ces pollutions, elles peuvent donner à des situations beaucoup plus corrosives, des demandes de relogement collectif, des divorces, une anxiété très forte. Ici, vous dites que c'est pas ça. On met plutôt en avant même la convivialité de la vie dans ces endroits. Il y a un tableau dans votre livre où vous montrez justement les arguments de ces gens qui s'estiment finalement assez heureux de vivre là. Donc, vous en avez cité quelques-uns, mais qu'est-ce qu'ils mettent en avant justement? Ils mettent aussi la beauté de la nature.
Oui, c'est tout le paradoxe, par exemple, de Fos-sur-Mer. Hein. Même le maire de Fos-sur-Mer, qui s'est beaucoup battu sur les pollutions, a comme slogan pour sa ville un écrin de vie. Fos-sur-Mer, un écrin de vie. Ce n'est pas ce à quoi on pense quand on arrive à Fos-sur-Mer. Et pourtant, il y a la plage, il y a une politique municipale redistributive assez efficace. Et ce pourquoi les gens se battent, c'est pour défendre la convivialité. Je ne dresse pas un portrait angélique et positif, j'explique que la pollution affecte les gens, transforme leur vie, impose des contraintes, des servitudes sur ces territoires-là qu'il faudrait mieux connaître, parce que souvent on met en avant des avantages en termes d'emploi, mais on oublie tout ce dont les gens sont dépossédés finalement dans ces territoires. Et quand les gens se battent pour leur territoire, c'est pour défendre ces convivialités-là. C'est pas, oui, il y a la pollution, mais tout va bien, c'est, il y a la pollution. Et les gens se battent ou se mobilisent pour continuer à habiter le plus normalement possible ces territoires malgré l'adversité. Et un rapport de force qui est démesuré, quoi. On se bat contre des usines et des grands pouvoirs économiques.
Alors vous l'avez évoqué rapidement, il y a une question d'emploi aussi. Ces industries, ces usines qui polluent, c'est des emplois locaux pour les riverains. Est-ce que vous, c'est un argument que vous avez entendu dans vos enquêtes, cet attachement-là à l'emploi fourni par l'industrie?
Oui, je l'ai entendu. C'est pas dans ces territoires-là, comme je le disais, les gens ont une culture aussi industrielle. Ils ne se battent pas pour faire partir les usines, ils se battent pour que les usines produisent de manière plus propre. Et c'est même gagnant sur le temps long. À Fos-sur-Mer, par exemple, vous avez même des syndicats, la CGT, qui se bat maintenant aux côtés des riverains, parce qu'ils savent bien que si on n'installe pas les filtres, si on ne fait pas les investissements sur le temps long, eh bien finalement, ces usines-là vont être hors normes et on va les délocaliser. Donc la défense là, de l'emploi et de l'industrie peut se faire de concert, en fait. Et c'est un peu le positionnement original dans ces villes-là.
On va revenir aux différentes pratiques développées donc par ces habitants, mais avant, qu'est-ce qu'on peut dire de leur rapport à l'État? Est-ce qu'ils estiment que l'État est défaillant, par exemple, dans la mise en sécurité de leur propre environnement, de leur propre vie? Vous parlez d'un, je crois que c'est le maire de Viviers, qui des années après voit l'État arriver, alors que donc les pollutions ont eu lieu bien avant, je crois, et il voit les services de l'État arriver pour enquêter sur ces pollutions, et il dit, mais en gros, qu'est-ce qu'on est? On est des morts vivants, en fait. C'est intéressant aussi de ne pas se reconnaître dans le discours, finalement, de l'État après.
Tout à fait. Là, c'est sur tous les territoires, finalement, c'est à l'État qu'on en veut le plus. On en veut pas toujours. Enfin, on en veut aux industriels, mais on s'attendait à ce que, bah, ils soient dans une logique de production et de pas faire attention aux gens. La colère, elle est effectivement dirigée vers les services de l'État, dont les gens estiment qu'il ne les a pas protégés contre des pouvoirs économiques, des usines. Et cette défiance, elle va même si loin que dans certaines situations comme à Viviez, où l'État prend ses responsabilités, eh bien, les habitants ne suivent pas. Parce que dans la surveillance telle qu'elle est exercée, les moyens limités de l'État, il faut le dire aujourd'hui, les services de l'État aujourd'hui sur les territoires, ce n'est plus ce que c'était. Ils n'ont plus les moyens d'avoir une surveillance ambitieuse. Ne parlons pas du contrôle.
Alors, le troisième chapitre de votre ouvrage, il est consacré aux ethnométhodes. Donc, après avoir expliqué pourquoi les gens restent dans ces habitants pollués, vous vous attachez à décrire leur tactique, c'est le mot que vous utilisez, pour cohabiter avec la pollution en minimisant les risques. Donc, justement, vous parlez d'ethnométhodes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce mot et nous en donner quelques exemples?
Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je me suis attachée à définir une figure de l'habitant attaché, justement, qui n'est pas aliéné, qui n'est pas captif et qui n'est pas non plus un sujet libre, une espèce d'homo economicus qui ferait des arbitrages. Quand on est attaché, qu'on reste dans les territoires, comment on continue à les habiter? Et ça suppose tout un tas d'ajustements, d'accommodements, de tactiques pour ne pas trop s'exposer aux pollutions. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Il y a la gestion officielle des risques qui interdit quand on dépasse certains seuils et puis qui ne pose aucune limite quand ces seuils ne sont pas dépassés. Les habitants, en fait, qui sont confrontés à des alertes, qui ont des inquiétudes, vont moduler leurs pratiques. Ils vont aller pêcher ailleurs. Par exemple, quand il y a eu les alertes sur les PCB du Rhône, ils sont allés pêcher dans le golfe de Fos. Ils ont changé le type d'espèces qu'ils prélevaient en se disant les espèces de fond sont plus exposées aux contaminants. Enfin, en matière de consommation et de pratiques de loisirs, de sport aussi, il y a des adaptations qui sont pensées par les habitants pour continuer à habiter, comme je le disais, le plus normalement possible ces territoires sans trop s'exposer.
Alors, vous parlez à plusieurs reprises de bricolage un petit peu, parce que finalement, c'est un peu avec leurs intuitions qu'ils se débrouillent, ces habitants. Ils n'ont pas vraiment de chiffres. Est-ce que les espèces qui vivent près de la vase sont moins polluées que les autres? Ça, en fait, on le sait pas trop. Est-ce qu'il y a des contraintes, des pratiques qu'on ne peut plus faire du tout, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous... Des pratiques vraiment empêchées par la pollution? Voilà, j'y arrive. Hein.
Bah, ça dépend des sites. Par exemple, à Viviez, il est très fortement déconseillé de jardiner et de consommer les produits de son jardin. Là, vous avez des recommandations claires qui disent que l'exposition au cadmium est conséquente, donc il ne faudrait pas consommer les produits du jardin. À Fos-sur-Mer, il n'y a pas ces recommandations-là, mais quand on interroge les habitants, y a certains qui ont changé leur pratique, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de faire un potager, puis ils sont passés à du jardinage d'agrément, avec des fleurs. Il y a ce type de pratique.
Les voisins leur amènent des courgettes, ils les jettent.
Ça, c'est des exemples qui m'ont été donnés, avec des gens qui disaient, on se fait des cadeaux entre voisins, mais on refuse les légumes. Enfin, on ne les refuse pas, on les accepte parce que ça fait partie de la sociabilité et puis on ne les mange pas.
Vous parlez même d'une personne qui cultive des légumes dans son jardin, qui ne les mange pas, mais qui les offre à ses voisins.
Ce qui m'a intéressé, c'était ça aussi la sociabilité.
Ouais, ouais,
c'est sans ironie du tout que ces échanges ont lieu.
Alors, dans votre dernier chapitre, vous introduisez le concept de métrologie citoyenne, qui est aussi le sous-titre de votre ouvrage. Comment est-ce qu'on définit ce que c'est que les métrologies?
La métrologie, c'est la mesure, la mesure et la surveillance. Ce dont on s'aperçoit sur ces territoires. Alors, il y a ces tactiques dont on ne sait pas trop certaines. Elles sont quand même inspirées par des connaissances scientifiques qui circulent. D'autres, elles sont bricolées, elles sont ancrées dans des pratiques. Et puis maintenant, donc à Fos-sur-Mer, c'est un petit peu un focus que je fais sur l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer dans mon ouvrage, met en place des expérimentations scientifiques et citoyennes. C'est des sciences participatives pour associer les habitants à la production de données et d'indicateurs sur la pollution de leur territoire. Et ça, c'est très original. À ma connaissance,
c'est unique, ouais,
unique, oui.
D'accord. Et qu'est-ce qui a justement motivé la création donc, de cet institut par le maire ?
Alors, c'est une demande sociale avec un financement municipal. Le maire de Fos-sur-Mer n'a pas pu, malgré toutes les mobilisations, s'opposer à la construction d'un nouvel incinérateur pour la communauté urbaine de Marseille sur le territoire du grand port maritime de Marseille à Fos-sur-Mer. Donc, il n'a pas pu, sur sa commune, donné son avis sur une nouvelle installation industrielle. Et du coup, il s'est dit à ce moment-là, je vais utiliser la taxe sur l'incinération que ma commune perçoit pour financer des recherches parce que je ne suis pas en capacité d'obtenir les données dont j'aurais besoin de la part des services de l'État. Donc on va devenir nous-mêmes producteurs de données. Et on a des tas de territoires aujourd'hui qui sont dans cette demande-là. Vous parliez de Lubrizol, de l'accident de Lubrizol à Rouen. Aujourd'hui, Rouen se tourne vers Fos-sur-Mer pour se dire... Il nous faut aussi notre institut éco-citoyen. On nous a dit que les fumées, c'était pas grand-chose, c'était de la vapeur d'eau. Bon, on sait que c'est pas tout à fait ça quand on mobilise une contre-expertise. Et tout le travail qui est fait par ces instituts éco-citoyens, c'est aussi refaire du lien social, de l'éducation aussi scientifique, et partager tout le travail de collecte de données avec les habitants.
Alors, vous attardez aussi un moment sur les expériences de biomonitoring participatif qui sont menées à partir d'animaux, de végétaux sentinelles comme les lichens ou les congres. Comment est-ce que ces études participatives, elles sont reçues aujourd'hui par le milieu politique et par le milieu académique ?
Alors, par le milieu académique, plutôt bien. L'Institut éco-citoyen de Fos est en partenariat avec l'Université de Marseille. Il y a un conseil scientifique. Dont, d'ailleurs, je fais partie en tant que sociologue, mais il y a des chimistes de l'environnement, des médecins qui ont intégré ce conseil scientifique. Donc la réception se fait très bien et les travaux de l'Institut donnent lieu à des publications dans des revues internationales évaluées par les pairs. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, effectivement, vous mettez le doigt sur le gros problème, c'est que la connaissance ne percole pas en direction des services de l'État et de l'État. Et même, on a une sorte de méfiance des services de l'État quand on sort un petit peu des standards administratifs. Et quand bien même l'Institut a pu produire des données nouvelles, avec des perspectives vraiment innovantes sur les pollutions du territoire du golfe de Fos, eh bien, l'État ne s'en est pas saisi. Et ça, c'est une vraie interrogation. Comment on pourrait... améliorer cette circulation de la connaissance, irriguer les services de l'État des nouvelles connaissances qui sont produites sur les pollutions.
Mais ça, c'est quelque chose qui transparaît un peu dans tout votre livre aussi. Il y a une sorte, alors je ne sais pas si défiance est le bon mot, mais en tout cas, l'État se saisit peu de ces... Quand vous parlez des pollutions tangibles, visibles, tout ce qui est perception, on s'en méfie, en fait. On a tendance à décrédibiliser en disant « oui, mais c'est... » C'est eux qui le ressentent comme ça, mais nous, dans notre modèle, on sait que ce n'est pas toxique, par exemple. Il y a une vraie réhabilitation dans votre livre de ces perceptions, mais l'État, elle ne le fait pas, ça, par contre.
Non, moi je ne suis pas en train de dire que les perceptions, c'est mieux que la mesure. Je suis en train de dire que le problème, c'est la déconnexion. Quand on mesure sans s'intéresser à ce que vivent les gens, on est hors sol, quoi. On produit de la donnée qui n'est pas pertinente pour le territoire. Et pourtant, on en a besoin. Donc, je suis en train de dire qu'il faudrait imaginer une reconnexion avec les perceptions. Là, l'Institut éco-citoyen, il fait autre chose. Il fait de la mesure. Il ne fait pas que de la perception. Il met à profit, justement, les perceptions pour définir de nouveaux protocoles qui soient plus adaptés au territoire. Il recourt au biomonitoring qui permet d'avoir des capteurs low-tech, les lichens par exemple, un nombre démultiplié sur le territoire. Et tout ça, ça produit de nouvelles connaissances bien plus riches et pertinentes pour le territoire parce qu'elles sont pensées à partir du territoire, à partir de la demande sociale, avec quand même une rigueur scientifique. Mais quand vous avez la surveillance réglementaire à Fos-sur-Mer, c'est trois préleveurs sur le territoire. Ne serait-ce qu'avec ces lichens, l'Institut éco-citoyen a une trentaine de placettes d'observation en continu de l'environnement. Donc vous ne produisez pas quand même la même donnée. Et cette qualité de données, bah oui, elle devrait d'une manière ou d'une autre permettre de redéfinir les standards de la surveillance environnementale.
On entend beaucoup parler aujourd'hui dans la recherche d'approches One Health, notamment depuis le Covid. Est-ce que, donc, comme on l'a dit, votre étude, elle replace le non-vivant aussi dans ses observations. Est-ce que vous vous ancrez un peu ou est-ce que vous vous reconnaissez dans ces approches One Health?
Moi, je suis sociologue et j'ai été formée dans une école qui s'appelle l'école de l'acteur réseau, qui s'est intéressée de longue date à toutes ces dépendances qui permettent à nos vies de s'accomplir. Et ces dépendances, évidemment, ce n'est pas que d'autres humains, c'est aussi des non-humains, des matières. Donc, j'ai plutôt cette approche-là. Et c'est vrai que l'approche One Health est tout à fait intéressante puisqu'elle élargit notre conception de ce qu'est la santé, qui ne repose pas que sur nos personnes, mais aussi sur la santé de nos environnements.
Eh ben merci beaucoup. C'était très complet et c'était passionnant. On vous remercie beaucoup.
Merci à vous, en tout cas.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.